Lizzy présente Les hirondelles de Kaboul de Yasmina Kadra, lu par Laurent Natrella. Au diable Vauvert, une tornade déploie sa robe à falbala dans la danse grand-guignolesque d'une sorcière en transe. Son hystérie ne parvient même pas à épousseter les deux palmiers calcifiés dressés dans le ciel comme les bras d'un supplicié. Une chaleur caniculaire a résorbé les hypothétiques bouffées d'air que la nuit, dans la débâcle de sa retraite, avait omis d'emporter. Depuis la fin de la matinée, pas un rapace n'a rassemblé assez de motivation pour survoler ses proies. Les bergers, qui d'habitude poussaient leurs maigres troupeaux jusqu'au pied des collines, ont disparu. À des lieux à la ronde, hormis les quelques sentinelles tapies dans leurs miradors rudimentaires, pas âme qui vive. Un silence mortel accompagne la déréliction à perte de vue. Les terres afghanes ne sont que champs de bataille, arènes et cimetières. Les prières s'émiettent dans la furie des mitrailles. Les loups hurlent chaque soir à la mort, et le vent, lorsqu'il se lève, livre la complainte des mendiants au croassement des corbeaux. Tout paraît embrasé, fossilisé, foudroyé par un sortilège innommable. Le racloir de l'érosion gratte, désincruste, débourre, pave le sol nécrotique, érigeant en toute impunité les stèles de sa force tranquille. Puis, sans préavis, au pied des montagnes rageusement épilées par le souffle des fournaises, surgit Kaboul. Ou bien ce qu'il en reste. Une ville en état de décomposition avancée. Plus rien ne sera comme avant, semblent dire les routes crevassées, les collines teigneuses, l'horizon chauffé à blanc et le cliquetis des culasses. La ruine des remparts a atteint les âmes. La poussière a terrassé les vergers, aveuglé les regards et cimenté les esprits. Par endroits, le bourdonnement des mouches et la puanteur des bêtes crevées ajoutent à la désolation quelque chose d'irréversible. On dirait que le monde est en train de pourrir, que sa gangrène a choisi de se développer à partir d'ici, dans le Pachtoun, tandis que la désertification poursuit ses implacables reptations à travers la conscience des hommes et leur mentalité. Personne ne croit au miracle des pluies, aux féeries du printemps, encore moins aux aurores d'un lendemain clément. Les hommes sont devenus fous. Ils ont tourné le dos au jour pour faire face à la nuit. Les saints patrons ont été destitués. Les prophètes sont morts et leurs fantômes, crucifiés sur le front des enfants. Et pourtant, c'est ici aussi, dans le mutisme des rocailles et le silence des tombes, parmi la sécheresse des sols et l'aridité des cœurs, qu'est née notre histoire, comme éclot le nénuphar sur les eaux croupissantes du marais. Chapitre 1. Atik Chokat abat sa cravache autour de lui pour se frayer un passage dans la foule loqueteuse qui tourbillonne, telle une nuée de feuilles mortes parmi les étals du marché. Il est en retard, mais impossible d'avancer plus vite. On se croirait dans une ruche. Les coups qu'il assène à plate couture n'interpellent personne. C'est le jour du souk, et les gens sont comme dans un état second. Atik en a la tête qui tourne. Les mendiants rappliquent des quatre coins de la ville, par vagues de plus en plus importantes, disputant les hypothétiques espaces libres aux charretiers et aux badauds. Les effluves des portefeuilles et les exhalaisons des produits avariés remplissent l'air d'une odeur épouvantable, tandis qu'une chaleur implacable écrase l'esplanade. Quelques femmes fantomatiques, interdites derrière leurs tchadris crasseux, s'accrochent aux passants, la main suppliante, ramassant au passage qui une pièce de monnaie, qui une imprécation. Souvent, lorsqu'elles s'obstinent, Une lanière excédée les rejette en arrière. Le temps d'un repli de courte durée, elles reviennent à l'assaut en psalmodiant d'insoutenables suppliques. D'autres, encombrées de marmailles aux narines effervescentes de mouches, s'agglutinent désespérément autour des marchands de fruits, guettant, entre deux litanies, une tomate ou un oignon pourri qu'un client vigilant aurait décelé au fond de son panier. « Ne restez pas là !» leur crie un vendeur en agitant furieusement une longue perche par-dessus les têtes. « Vous attirez la poisse et toutes sortes de bestioles sur mon stand !» Attic Chocat consulte sa montre. Ses mâchoires se crispent de colère. Le bourreau doit être arrivé depuis une bonne dizaine de minutes, et lui, il traîne encore dans les rues. Exaspéré, il se remet à cogner pour disperser les flots humains, s'acharne inutilement sur un groupe de vieillards aussi insensibles à ses coups de martinet qu'aux sanglots d'une fillette égarée dans la cohue. Puis, profitant d'une brèche occasionnée par le passage d'un camion, il parvient à se faufiler jusqu'à une ruelle moins agitée et se dépêche en boitillant vers une bâtisse étrangement debout au milieu des décombres alentours. Il s'agit d'un vieux dispensaire désaffecté, depuis longtemps pillé par des esprits frappeurs et que les talibans utilisent parfois comme maison d'arrêt occasionnelle lorsqu'une exécution publique est prévue dans le quartier. « Mais où étais-tu passé ?» tonitrue un barbu en tripotant sa kalachnikov. « Ça fait une heure que j'ai envoyé quelqu'un te chercher. » « Je te demande pardon, Kassim Abdul Jabbar, » dit Attic sans s'arrêter. « Je n'étais pas à la maison. » Puis, d'une voix irritée, il ajoute « J'étais à l'hôpital. J'ai dû évacuer d'urgence mon épouse. » Kassim Abdul Jabbar grogne, nullement convaincu, et le doigt sur le cadran de sa montre, il lui signifie qu'à cause de lui, tout le monde s'impatiente. Attic rentre le coup et se dirige sur la bâtisse où des hommes armés l'attendent, accroupis de part et d'autre du portail. L'un d'eux se redresse en époustant son postérieur, va vers une camionnette débâchée garée à une vingtaine de mètres, saute à l'intérieur de la cabine, fait rugir le moteur et vient, en marche arrière, se ranger devant l'entrée de la prison. Attic Chocat extirpe un trousseau de clés de sous son long gilet et s'engouffre dans la geôle, suivi de près par deux miliciennes emmitouflées dans des tchadris. Dans un coin de la cellule, juste là où une lucarne déverse une flaque de lumière, une femme voilée finit de prier. Les deux miliciennes invitent le gardien à se retirer. Une fois seules, elles attendent que la prisonnière se relève pour la rejoindre et, sans ménagement, elles lui ordonnent de se tenir droite et entreprennent de lui ligoter sévèrement les bras et les cuisses. Puis, après avoir vérifié que les cordelettes étaient bien tendues, elle lui enroule un grand sac en toile autour du corps et la pousse devant elle, dans le corridor. Attic, qui attendait dans l'embrasure du portail, signale à Kassim Abdul Jabbar que les miliciennes arrivent. Ce dernier demande aux hommes dans la cour de s'écarter. Intrigués, quelques passants se rassemblent en face de la bâtisse, en silence. Les deux miliciennes sortent dans la rue, saisissent la prisonnière par les aisselles, l'entassent sur la banquette arrière de la camionnette et s'installent étroitement à ses côtés. Abdul Jabbar relève la ridelle de la voiture et rabat les loquets. Après un dernier regard sur les deux miliciennes et la prisonnière pour s'assurer que tout est au mieux, il grimpe à côté du conducteur et donne un coup de crosse sur le plancher pour ouvrir la marche. Aussitôt, la camionnette démarre, escorté par un gros 4x4 surmonté d'un gyrophare et chargé de miliciens débraillés. Mohsen Rahmat hésite longtemps avant de se décider à rejoindre l'attroupement sur la place. On a annoncé l'exécution publique d'une prostituée. Elle sera lapidée. Quelques heures auparavant, des ouvriers sont venus décharger des brouettes remplies de cailloux à l'endroit de la mise à mort et ont creusé un petit fossé d'une cinquantaine de centimètres de profondeur. Mohsen a assisté à plusieurs lynchages de cette nature. Hier seulement, deux hommes, dont l'un à peine adolescent, ont été pendus au bout d'un camion-grue pour n'être décrochés qu'à la tombée de la nuit. Mohsen déteste les exécutions publiques.